tous.
C'est bon,
c'est
plus fort.
Alors du coup, voilà, c'est bon. Alors c'est une bonne question, bah, tout d'abord parce que bon, j'ai fait toutes mes études en Savoie, donc la Savoie m'intéressait tout particulièrement, et le chemin de fer est une histoire qui finalement au 19e siècle a peu été étudiée, et ça permettait de brasser des champs très différents comme l'économie, la géopolitique, la diplomatie, donc c'est pour ça que je me suis intéressée à ce sujet, sur le chemin de fer en Savoie. Voilà. Alors en fait, justement, il y a 150 ans, quasiment jour pour jour, puisque c'était le 17 septembre 1871, avait lieu l'inauguration du tunnel du Mont-Cenis. Les différentes cérémonies qui se déroulent alors des deux côtés, alors à la fois à Modane mais aussi à Bardenèche, à Turin, célèbrent la réussite d'un ouvrage inédit d'un point de vue technique, mais surtout célèbre la réussite d'un ouvrage transnational qui permet d'unir Paris, la nouvelle capitale de la Savoie, et au-delà l'Angleterre, à la péninsule italienne. En effet, donc, ce chemin de fer qui traverse la Maurienne et qui conduit au tunnel a toujours été envisagé, et ce, dès les premiers projets dans les années 1840, dans une optique transnationale. Pour que ce réseau ferroviaire ce réseau ferré soit utile, il faut qu'il soit connecté au reste de l'Europe ferroviaire qui est en train de se dessiner. C'est la seule condition pour que la Maurienne devienne un des axes forts du transit européen. Alors comment ce chemin de fer en Maurienne a-t-il été conçu et mis en place dans une perspective transnationale? Alors les choses sérieuses commencent en fait en 1852, au moment où le ministère des Travaux publics sarde ouvre un concours, c'est le terme exact, un concours pour la construction et l'exploitation d'un chemin de fer au-delà des Alpes en Savoie. Un seul dossier est déposé pour ce concours, c'est celui d'une société transnationale qui est contrôlée par des Français, mais où figurent également des actionnaires anglais et sardes. Cette société elle est dirigée par un banquier français qui s'appelle Charles Lafitte. Alors dans ce montage financier, les Savoyards ne représentent que 4,5% des souscriptions, donc le chemin de fer en Savoie n'est pas savoyard, c'est majoritairement une entreprise française. Alors cette compagnie justement qui a déposé le dossier remporte le concours, elle prend le nom de compagnie Victor Emmanuel, et elle s'engage dès 1853 à construire, à ses risques et périls, un chemin de fer à une seule voie, partant de Modane, parcourant l'Arc et l'Isère jusqu'à Montmélian, puis à Chambéry. De là, un embranchement est prévu, donc doit partir vers la frontière française par Saint-Genis-d'Aoste, tandis qu'un autre embranchement passerait par Aix-les-Bains, Albins, puis s'approcherait le plus possible d'Annecy avant d'aller vers le Genevois. Mais les travaux de construction ont du mal à démarrer. Le Charles Lafitte, donc, qui est à la tête de cette compagnie ferroviaire, parvient même à négocier une réduction de la concession qui avait été accordée l'année précédente. Alors il prétexte des difficultés financières et puis finalement il obtient l'autorisation de ne construire qu'un tronçon entre Aix-les-Bains et Saint-Jean-de-Maurienne. En fait, Charles Lafitte cherche à gagner du temps et il veut faire échouer le projet de liaison par Saint-Genis-d'Aoste vers Lyon. Lui, ce qu'il veut, c'est faire une liaison vers la France, mais par Culose. Comme ça, ce qui privilégierait les intérêts parisiens plutôt que les intérêts lyonnais. Alors ça marche, puisque dès l'année suivante, bah, il obtient que la liaison avec la France ne se fera plus à Saint-Genis-d'Aoste, mais à Culose. Le gouvernement sarde cède, hein, il cède plutôt facilement parce qu'il ne veut pas que ce projet transfrontalier soit abandonné, parce qu'un bout de ligne en Savoie ne donne rien au gouvernement sarde. Et puis il a peur aussi de mécontenter le gouvernement français, parce qu'il a besoin à cette époque du gouvernement français dans son projet d'unité italienne, son soutien dans le projet d'unité italienne. Alors, là, une fois que la connexion à Culose est finalement obtenue, bah, la compagnie Victor Emmanuel consent à continuer les travaux. Alors, les infrastructures ne sont pas de très bonne qualité, notamment les rails, mais aussi les wagons. Les gares, pour des raisons de coût, sont tout d'abord provisoires, donc elles sont en bois. Donc, les travaux au début s'avèrent assez compliqués. Malgré tout, le 1er octobre 1856, une course d'essai est effectuée entre Choudy, donc qui est un hameau à proximité d'Aix-les-Bains, et Saint-Jean-de-Maurienne. Et puis, quelques jours plus tard, la ligne est officiellement ouverte. Et l'année suivante, en 1857, les travaux du pont ferroviaire sur le Rhône à Culose et du tunnel ferroviaire du Mont-Cenis sont sur le point d'être lancés. Et donc, ça permettra de relier le chemin de fer à la France et au-delà des Alpes. Alors, afin d'immortaliser ce moment, cette inauguration des travaux, le président du conseil Sardes de l'époque, qui est Camille Cabour, prend l'initiative d'organiser des cérémonies d'inauguration. Par ces dernières, il souhaite symboliquement associer les deux ouvrages, donc associer le pont ferroviaire de Culose et le tunnel du Mont-Cenis, pour montrer l'union matérielle, mais surtout l'union politique entre les deux pays. Napoléon III, qui est empereur à l'époque, se montre tout à fait favorable à l'initiative et il va envoyer son cousin, le prince Napoléon Jérôme, et Napoléon Jérôme est d'ailleurs actionnaire du Victor Emmanuel. Du coup, le 31 août 1857, la première cérémonie d'inauguration, donc sur le tunnel à Modane, a lieu. C'est le roi Victor Emmanuel qui met le feu à la première mine et une des pierres qui se détache est transportée à Culose afin de servir symboliquement à la première pierre à l'édification du pont sur le Rhône. Et le lendemain, les délégations françaises et sardes se rendent à Culose pour l'inauguration du pont ferroviaire. Ces deux cérémonies n'ont pas pour but de célébrer la technique. Elles sont vraiment très politiques, éminemment politiques. Il s'agit vraiment de montrer le rapprochement diplomatique du royaume de Sardaigne avec l'Empire français. Alors, en attendant que le pont ferroviaire soit construit, les liaisons ferroviaires entre la France et la Savoie doivent tout de même avoir lieu. Donc il faut qu'elles soient opérationnelles, donc il faut recourir à l'intermodalité, c'est-à-dire qu'il faut combiner à la fois le rail, la navigation et le transport routier pour que les gens puissent aller du Piémont jusqu'en France. Du coup, en 1856, les voyageurs qui se rendent en France descendent du train à Choudy, empruntent la route jusqu'au port de Plouère, donc à proximité d'Aix-les-Bains, puis prennent un bateau à vapeur qui traverse le lac du Bourget, le canal de Servière et le Rhône jusqu'à Culose, où là, ils peuvent récupérer le chemin de fer. Dès l'année suivante, on va essayer de simplifier un petit peu le schéma, limiter les transbordements, puisque ça commence à être compliqué. Le chemin de fer est prolongé donc, jusqu'à Saint-Innocent, donc, qui est vraiment en bordure du lac du Bourget. Et là, les gens n'ont plus qu'à descendre et à prendre directement le bateau. Donc ça permet d'avoir une correspondance un peu plus directe vers la France. Alors cette organisation ne va pas durer très longtemps, puisque dès le 2 septembre 1858, le pont sur le Rhône est ouvert à la circulation. Dans le même temps, la compagnie Victor Emmanuel ne s'arrête pas là. Elle devient aussi propriétaire des lignes qui sont situées de l'autre côté des Alpes, de façon à ce qu'une fois que le tunnel soit percé, elle puisse posséder toute la ligne à travers le tunnel du Piémont jusqu'à la France. Donc du coup, elle devient propriétaire de la ligne qui va de Suse à Turin, puis ensuite elle prolonge jusqu'au Tessin. Et là, il ne reste plus qu'à percer le tunnel, si on peut dire. Alors le but de ce chemin de fer à travers la Savoie et à travers la Maurienne a toujours été pour le royaume de Sardaigne le franchissement des Alpes. Un chemin de fer uniquement sur le territoire savoyard n'a à l'époque pour le gouvernement sarde aucune utilité. Il faut vraiment que la Savoie devienne un axe transnational. Un tunnel ferroviaire sous les Alpes est donc absolument indispensable à la construction de cet axe. Alors ce tunnel donne lieu à de très nombreux débats, même des affrontements, des pourparlers à la fois entre les populations sardes, savoyardes, même si on ne leur demande pas tellement leur avis, mais surtout des négociations entre le gouvernement sarde, le gouvernement français, mais aussi la Suisse, et puis aussi le Royaume-Uni, puisque ces deux États sont aussi susceptibles d'avoir des intérêts dans le tunnel du Mont-Cenis. Du coup, le tunnel du Mont-Cenis est vraiment au cœur d'un jeu géostratégique très important. Finalement, la loi sur le percement d'un tunnel sous le massif du Fréjus, que l'on baptise tunnel du Mont-Cenis pour indiquer la filiation avec le col, parce que c'est le col du Mont-Cenis à l'époque qui est connu, qui parle aux gens. Donc on le baptise tunnel du Mont-Cenis, est habité en 1857. Alors ce chantier, il s'avère particulièrement long, il s'annonce particulièrement long, particulièrement difficile, c'est pour les hommes qui sont employés. Un tel ouvrage est une première à l'époque. Il s'agit du plus long tunnel ferroviaire jamais construit, avec des procédés qui combinent à la fois des savoir-faire traditionnels, mais aussi des innovations. Alors je ne vais pas m'attarder très longtemps sur le déroulement des travaux, juste deux petits éléments. De 1857 à 1861, les travaux avancent lentement, le creusement commence manuellement, puis ensuite les perforatrices à air comprimé qui sont mises au point par les ingénieurs sardes Sommeiller, Grandis et Gratoni sont mises en service en janvier 1861 côté Bardenèche et en janvier 1863 côté Modane. Les trois ingénieurs, en fait, s'inspirent énormément, pour ne pas dire parfois copient, les inventions d'autres ingénieurs qui ont travaillé sur la propulsion de l'air avant eux. Mais malgré tout, les débuts des perforatrices sont quand même chaotiques. Aucun des ouvriers n'est spécialisé dans le maniement de tels engins, et donc un temps d'adaptation est nécessaire. On remarque en fait, les premiers mois, l'avancée moyenne est de 45 cm par jour, soit moins que le travail manuel. Donc ça met quelques temps à fonctionner. Puis en plus de ça, il y a tout un tas d'imprévus, forcément, qui ralentissent les travaux, des roches qui sont extrêmement dures, des éboulements, des inondations, des explosions. Donc ce travail est extrêmement long. Finalement, le 25 décembre 1870, les deux galeries se rejoignent avec un écart de 36 cm en leur axe, ce qui est quand même un résultat assez remarquable pour l'époque. Une fois que les deux galeries se rejoignent, il ne reste plus qu'à terminer la galerie jusqu'aux véritables entrées du tunnel, à faire poser les voies ainsi que les portails. Et le 16 octobre 1871, le premier train direct entre Paris et Rome emprunte alors le tunnel ferroviaire du Mont-Cenis. Et il est à noter que l'annexion en 1860 ne modifie en rien l'organisation du chantier. Le chantier continue à être dirigé par les mêmes ingénieurs sardes puis italiens, accompli par les mêmes ouvriers sardes puis italiens. Rien ne change. Par contre, au moment de l'ouverture du tunnel du Mont-Cenis, ce n'est plus la même compagnie qui exploite la ligne. Alors ça n'a rien à voir avec l'annexion, c'est des affaires purement financières. Mais depuis 1867, c'est la compagnie du Paris-Lyon à la Méditerranée qui exploite le chemin de fer jusqu'à Modane. Et de l'autre côté, versant italien, c'est les chemins de fer de la Haute-Italie qui exploitent le chemin de fer de Modane vers Turin. Donc ça veut dire que le tunnel est exploité par la compagnie de la Haute-Italie. Alors jusqu'à l'ouverture du tunnel du Mont-Cenis en 1871, les compagnies ferroviaires Victor-Emmanuel puis PLM et de la Haute-Italie, sont contraints d'emprunter un autre mode de transport, puisque le tunnel n'est pas encore opérationnel. Donc ils sont là aussi obligés de recourir à l'intermodalité pour assurer une connexion de part et d'autre des Alpes. Ainsi, de Saint-Jean-de-Maurienne, puis ensuite de Saint-Michel-de-Maurienne en 1862 jusqu'à Suse, les convois de voyageurs sont contraints d'emprunter la route du col du Mont-Cenis en diligence. Alors, c'est les compagnies ferroviaires qui organisent les transbordements. Le but, c'est de faire les choses de façon le plus fluide possible. Et donc, ils vont recourir à une compagnie de diligence qui est là depuis 1810, qui est une compagnie lyonnaise qui s'appelle la compagnie Bonnefou. Donc, du coup, les gens descendent du train, empruntent la diligence, passent le col du Mont-Cenis pour récupérer le train de l'autre côté à Suse. Alors, il faut en moyenne entre 12 et 15 heures pour faire la liaison entre Saint-Michel-de-Maurienne et Suse, lorsque tout se passe bien. Bien sûr, l'hiver, les choses se compliquent avec la neige, le gel, etc. Et à partir de 1868, la diligence est remplacée par un autre mode de transport qui est totalement inédit en Europe et dans le monde, qui est en fait un chemin de fer avec une locomotive et un type de voie particulier, ce qu'on appelle le chemin de fer Fell. Simplement du nom d'ingénieur anglais qui a mis au point ce système. La voie est composée de trois rails, dont celui du centre qui est plus haut, de 18 cm, que les deux autres. Et sur ce rail central, il y a deux paires de roues horizontales qui prennent appui et qui serrent avec plus ou moins de force. Et la pression exercée sur ce rail permet une meilleure adhérence. Alors là, du coup, la locomotive est capable d'emprunter de fortes rampes et ce chemin de fer est installé tout le long de la route du col du Mont-Cenis sur 77 km à l'extérieur de la route, comme on peut le voir sur le petit dessin. Et les rampes sont extrêmement fortes puisqu'elles peuvent atteindre 83 pour 1000, ce qui est considérable, et les rayons de courbure peuvent aller jusqu'à 40 mètres, donc pareil, ce qui est assez exceptionnel. Et afin de protéger ce chemin de fer des intempéries, Fell a l'idée de construire à plusieurs endroits à partir de Lens-le-Bourg des galeries sur une longueur à peu près de 12 km. Alors en tôle et en charpente dans les passages où seule la neige est un obstacle, ou en maçonnerie lorsqu'il y a un risque d'avalanche. Et d'ailleurs, aujourd'hui, si vous empruntez la route du col du Mont-Cenis, vous pouvez encore voir certains éléments de ces galeries en maçonnerie. Elles existent encore. Et voilà, donc pour rassurer les voyageurs, parce que c'est quand même assez impressionnant puisque la route, le rail passe vraiment en bord de route, les fenêtres sont installées en hauteur pour éviter que les voyageurs voient les précipices. Et du coup, ce chemin de fer permet la liaison trois fois par jour entre Saint-Michel-de-Moriez et Suse. Et du coup, le temps de parcours diminue fortement, puisqu'avec le chemin de fer Fell, il faut plus que 5h, 5h30 pour parcourir le col du Mont-Cenis contre 12 à 15 heures en diligence. Et ce système est bien sûr supprimé avec l'ouverture du tunnel du Mont-Cenis. Et une fois que le tunnel du Mont-Cenis est ouvert, et ben en fait, on peut la traverser du territoire savoyard entre Turin et Culose, ne se fait plus qu'en 12 heures en moyenne, contre 21 heures en 1857. Alors, est-ce que ce tunnel est finalement à la hauteur des ambitions qu'on a projetées à travers lui, au moment de son ouverture? Il faut voir que l'un des trafics que les compagnies qui exploitent le tunnel du Mont-Cenis espèrent attirer, c'est celui de la Malle des Indes, donc qui est un service de messagerie qui relie Londres à Bombay. L'enjeu est forcément économique, mais il est surtout politique, puisque tous les pays qui sont traversés par la Malle des Indes entretiennent automatiquement des relations étroites avec le gouvernement anglais. Donc tout le monde veut récupérer la Malle des Indes. Le tunnel du Mont-Cenis va réussir entre 1869 et 1871. La Malle des Indes passe par le tunnel du Mont-Cenis. La guerre contre la Prusse oblige un détournement du trafic. Le trafic va passer du coup par le Brenner. Et puis du coup le trafic, la Malle des Indes, revient dès janvier 1872 par le tunnel du Mont-Cenis. À côté de cette Malle des Indes, on remarque aussi que l'axe ferroviaire à travers la Savoie va drainer assez rapidement de plus en plus de trafic, que ce soit les flux de voyageurs ou des marchandises, et ce jusqu'au début des années 80. Mais en fait, donc, si le Mont-Cenis permet un incontestable gain de temps, il souffre quand même de plusieurs handicaps. Tout d'abord, les tarifs élevés. Les tarifs élevés sur le chemin de fer. Les réticences du PLM, puisque le PLM est un peu réticent à favoriser le tunnel du Mont-Cenis, parce que si on favorise le tunnel du Mont-Cenis, ça favorise les ports italiens. Or, le PLM a un port historique qui est Marseille, donc le PLM n'a pas tout à fait intérêt à ce que tous les trafics passent par le tunnel du Mont-Cenis, d'où des tarifs parfois un peu élevés. Et surtout, le tunnel du Mont-Cenis va très vite souffrir de la concurrence, à la fois du Brenner, mais aussi ensuite du tunnel ferroviaire du Gothard, qui est ouvert en 1882. Et dès 1882, on voit que les flux de marchandises et de voyageurs baissent fortement avec l'ouverture du concurrent suisse. Donc du coup, le succès économique du tunnel du Mont-Cenis et du chemin de fer qui y mène sont en fait relatifs. L'ouvrage attire incontestablement des trafics régionaux, nationaux, internationaux, mais ça ne suffit pas à faire du chemin de fer à travers la Savoie le premier axe commercial des Alpes. Et d'un point de vue politique, si l'ouvrage était perçu à l'inauguration des travaux en 1857 comme la matérialisation d'un rapprochement diplomatique entre le Royaume de Sardaigne et l'Empire français, Il n'en est plus du tout de même au moment d'inauguration en 1871. Cela est d'ailleurs tout à fait perceptible lors des cérémonies d'inauguration du tunnel en 1871. Tout est organisé depuis le versant italien. C'est du coup la ville de Turin, la direction technique de la percée des Alpes, et c'est la compagnie des chemins de fer de la Haute-Italie qui organise les cérémonies. Le PLM d'ailleurs n'est même pas invité. Alors, c'est une façon pour la Haute-Italie de s'approprier le tunnel. La France, ces cérémonies d'inauguration sont pour la France très loin dans ses préoccupations, puisqu'il y a eu la guerre contre la Prusse. Du coup, la France finalement décide d'envoyer un représentant, c'est le ministère de l'Agriculture et du Commerce. Et puis un peu plus tard, elle envoie le ministre des Affaires étrangères, qui arrive d'ailleurs avec 2 jours de retard à Turin. Donc en fait, la France ne projette pas dans ce tunnel la même chose que l'Italie. Ce n'est pas la même portée symbolique que pour l'Italie. Alors qu'en 1857, les deux pays étaient sur la même longueur d'onde. En revanche, la municipalité de Modane, de son côté, s'empare de l'événement. La municipalité fait décorer les habitations de Guirlande, de Lampion. Elle organise un défilé avec la fanfare, les gardes nationaux, les pompiers. C'est, de ce côté des Alpes, c'est vraiment le local qui s'empare de l'événement. Toute la communauté qui a vécu pendant 14 ans avec le chantier, que ce soit les ouvriers, les commerçants ou même les curieux, fête le tunnel. Alors aujourd'hui, le tunnel du Mont-Cenis reste néanmoins, par sa taille, par les moyens humains et matériels qui ont été déployés, ce tunnel garde toujours l'image de pionnier, qui fait quand même la fierté à la fois de la Savoie, de la France et de l'Italie, comme on peut voir les différents monuments, que ce soit à Modane ou côté italien. Merci.